Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
On est ensemble jusqu'à 20h avec dans un tout petit instant le journal de Christophe Lamarre. Juste après, on ouvrira ensemble le débat du Club des idées. Et on va s'intéresser ce soir à la crise de vocation chez les magistrats. Un métier que l'on choisit par passion, mais qui finit par vous user, nous diront mes invités. Les magistrats se sentent souvent mal aimés, ils manquent de moyens et de reconnaissance et travaillent dans des conditions très compliquées. Alors quelle incidence pour nous dans nos démarches, dans nos contentieux? On en débattra dans 20 minutes. Juste avant, ce sera la carte blanche d'Anne Rosenchère qui nous parlera du Big Bazar autour des nouveaux noms, des nouvelles communes. Mais d'abord donc le point sur l'info avec vous Christophe Lamarre. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Une nouvelle rixe dans l'Essonne à Boussy-Saint-Antoine. Cette fois, c'est un adolescent de 13 ans qui est mort.
Et ce 24 heures après la mort d'une collégienne de 14 ans qui voulait empêcher deux bandes rivales d'en découdre. À Saint-Chéron, où s'est noué le drame, les habitants sont sous le choc.
Gérard Depardieu mis en examen pour viol. L'acteur est accusé par une jeune comédienne.
La Bretagne, terre de résistance au virus. L'épidémie recule et les élus comme les habitants réclament un assouplissement des restrictions.
Le gouvernement veut gérer cette crise au plus près des territoires et faire du cas par cas. Chiche, répondent les élus bretons, confiner quand c'est nécessaire mais relâcher la pression quand les chiffres sont bons.
La situation est bien différente à Dunkerque hein, où l'épidémie galope. Le maire présente le plan de la dernière chance, ultime espoir d'éviter un confinement semblable à celui des Alpes-Maritimes.
Aux États-Unis, le Congrès veut rebaptiser les académies militaires. Mais pourquoi faire? L'œil de notre spécialiste des questions internationales Didier François dans ce journal.
Anissa Haddadi, de la douceur demain au programme.
Et oui, les températures de demain après-midi seront dignes d'un mois d'avril. Elles vont grimper encore demain grâce au soleil qui, lui, va briller généreusement sur toute la France. Tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
À Boussy-Saint-Antoine, dans l'Essonne, une nouvelle rixe entre une soixantaine de jeunes a donc fait un mort, un adolescent de 13 ans, Gladys Laffitte.
Oui, et ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'une bagarre a éclaté en fin d'après-midi, il y a à peine 2 heures, vers 17h, dans la commune de Boussy-Saint-Antoine, donc dans l'Essonne, dans l'est du département cette fois-ci. Une rixe entre deux bandes rivales, là encore, l'une qui vient d'Épinay-sous-Sénart et l'autre de Quincy-sous-Sénart. Et au milieu de ces deux communes se trouve Boussy-Saint-Antoine. Une soixantaine de personnes, donc vous l'avez dit, a été mêlée à cette rixe. Et parmi elles, cet adolescent de 13 ans, décédé des suites de ses blessures au cou à l'arme blanche. Il est mort sur place. Un autre jeune homme de 16 ans est lui grièvement blessé. Et enfin, un troisième est plus légèrement blessé. Alors, on ne connaît pas pour le moment les raisons de cette rixe. Mais ce que je peux vous dire, c'est que 6 personnes ont été interpellées par la police ce soir.
Merci pour ces toutes dernières précisions. Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. L'Essonne qui décidément paye un lourd tribut à ces affrontements entre bandes. À Saint-Chéron, c'est une adolescente de 14 ans qui a été tuée hier pour avoir tenté de mettre fin à une bagarre.
Et dans cette petite ville de 5000 habitants, les gens sont toujours sous le choc, Johanna Chabas.
Oui, l'ambiance est très lourde ici. Tout le monde en parle, essaye de comprendre ce qui s'est passé. Les jeunes, surtout, sont marqués. Crystal a 10 ans, vit à côté du collège. Comme beaucoup d'habitants, elle avait déjà croisé la victime, toujours souriante et au fort caractère. Depuis la rixe, Crystal ne veut plus être seule dans la rue.
Même si on n'est pas mêlé à des choses comme ça, on a quand même peur de se faire attaquer ou des personnes qui arrivent, tout ça. Du coup, le matin, quand tu vas à l'école, c'est pas très rassurant, surtout que tu passes à l'endroit où la fille elle a été attaquée. Donc tu dis, pourquoi pas ça m'arrivera à moi?
Elle demande maintenant à sa mère, Aurélie, de l'accompagner partout. Cette maman est aussi sous le choc. Elle n'avait jamais vu de bande rivale et était persuadée qu'un tel incident n'était pas possible ici, dans cette petite ville paisible au bord des bois.
Je suis hyper surprise. Pour moi, ça restait dans tout ce qu'on entend aux actualités, sur toutes les villes où il y a des cités avec des bandes rivales, etc. Mais effectivement, je ne pensais pas que ça viendrait jusqu'à chez nous. Donc ce n'est pas quelque chose qui jusque-là m'inquiétait. Maintenant un peu plus, parce que du coup je sais que ça existe, même à Saint-Chéron.
Alors si les rixes sont rares ici, elles sont un phénomène grandissant dans le département. Sur 146 en Île-de-France, la moitié ont eu lieu dans l'Essonne l'année dernière.
Johanna Chabas à Saint-Chéron, donc dans l'Essonne, Europe 1, 19h03. Et c'est l'autre grand titre de la soirée. On l'a appris il y a quelques instants, l'acteur Gérard Depardieu est mis en examen pour viol.
Oui, c'est une jeune comédienne qui l'accuse de l'avoir agressée à l'été 2018, Marion Dubreuil.
Oui, cette comédienne parisienne de 22 ans avait déposé plainte pour deux scènes de viol les 7 et 13 août 2018. En marge d'une répétition informelle pour une pièce de théâtre, les faits se seraient déroulés au domicile parisien de Gérard Depardieu, un hôtel particulier du 6e arrondissement. L'avocat de l'acteur, Hervé Temim, avait reconnu à l'époque que son client connaissait la jeune femme. Mais Gérard Depardieu contestait alors toute agression sexuelle, tout viol, toute infraction. C'est encore le cas aujourd'hui. L'acteur s'était dit totalement abasourdi, ébranlé par ces accusations qui seraient, je cite, tout le contraire de sa personnalité. Après 9 mois d'enquête, le parquet de Paris avait dans un premier temps classé sans suite la plainte pour viol en expliquant que les nombreuses investigations réalisées n'avaient pas permis de caractériser les infractions dénoncées dans tous leurs éléments constitutifs. La plaignante avait obtenu mi-août dernier la reprise de l'enquête via une plainte avec constitution de partie civile, un recours qui permet la désignation quasi automatique d'un juge d'instruction pour relancer les investigations avec cette mise en examen en décembre dernier.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. La crise sanitaire, la Bretagne n'a pas choisi d'entrer en dissidence, mais ce soir, elle réclame un allègement des restrictions sanitaires.
Oui, parce que les élus locaux font ce constat. Le virus circule moins dans leur région qu'ailleurs. Alors pourquoi, dans ces conditions, maintenir le couvre-feu à 18h par exemple? Alors, s'ils ne demandent pas un retour total à la vie d'avant, ils estiment que l'on peut quand même desserrer un peu l'étau des restrictions, comme l'explique Ronan Loas, le maire de Pleumeur dans le Morbihan.
Je pense que les gens ont besoin d'optimisme et de visibilité. On ne demande pas de repasser à une vie normale d'un coup, mais se dire est-ce qu'il est toujours opportun de maintenir un couvre-feu à 18h ? 20h est bien plus compréhensible, c'est-à-dire qu'il commence à faire jour jusqu'à plus de 19h. Ça commence à créer une forme de frustration. L'autre sujet, c'est pourquoi pas expérimenter la réouverture de certaines terrasses, de bars, de restaurants, sans peut-être ouvrir pour l'instant l'intérieur, mais surtout de faire un test. Donc voilà, pourquoi pas réouvrir nos lieux culturels? Est-ce qu'il ne faudrait pas tester à nouveau sur des jauges plus faibles? Voilà, donc je pense que si on veut que les gens acceptent des règles dures et strictes, il faut aussi qu'on soit capable de renvoyer un peu de liberté par moment.
Ronan Loas, maire de Pleumeur dans le Morbihan, allègement des restrictions réclamées en Bretagne, reconfinement redouté dans le Nord, à Dunkerque, on tente de l'éviter à tout prix.
Oui, le maire de la ville a parlé ce matin avec le Premier ministre qui a réclamé des mesures supplémentaires de freinage. Il recevra la visite du ministre de la Santé demain et en attendant, Patrice Vercruyt demande aux Dunkerquois de faire un ultime effort pour tenter d'éviter le pire.
Nous ne nous opposerons pas à un confinement s'il devait avoir lieu, parce que c'est une décision difficile qui est prise. Néanmoins, on pense qu'il faut tout tenter avant les mesures de privation de liberté, puisque rien n'est pire dans une démocratie que les mesures de privation de liberté. Ce n'est pas notre proposition, parce que d'abord, un maire est positionné sur la prévention, et nous voulons donner une dernière chance à la population dunkerquoise pour ne pas être confinée. C'est-à-dire que si on veut éviter le confinement, ce sera zéro regroupement, zéro rassemblement. C'est une sorte de dernière chance avant une mesure de privation de liberté publique que j'ai demandé à Olivier Véran. Pour l'éviter, ce que nous avons proposé au gouvernement, c'est une immense responsabilité des Dunkerquoises et Dunkerquois à chaque minute de leur vie.
Patrice Vercruyt, le maire de Dunkerque avec Lionel Gougelot. Après Nice, Dunkerque aura peut-être droit à ces mesures plus strictes. L'exécutif, en tout cas, ne veut pas changer de stratégie.
Oui, il s'agit de faire du cousu-main. L'Élysée veut désormais adapter les mesures en fonction, Hélène Terzian, de la situation sanitaire, c'est-à-dire au plus près du terrain.
Compte tenu de la situation, il vaut mieux régionaliser. Voilà ce qu'a expliqué Emmanuel Macron à des élus de Côte d'Or, où le président était en visite ce matin. Et dans l'entourage du président, on précise, la logique, c'est d'avoir une approche locale, car les situations sont différentes au sein d'une région, comme ce qu'on fait sur Nice et Dunkerque, par exemple. On le comprend, l'Élysée veut donc faire du cas par cas. À Nice et son littoral, il y aura notamment 2 week-ends de confinement. À Dunkerque, des mesures supplémentaires de freinage sont attendues. Et pour réussir ce cousu-main, on insiste sur le couple maire-préfet. À Matignon, on mise sur le travail de concertation locale des élus et des autorités publiques. L'idée, c'est de définir la réponse la mieux adaptée à la situation. À Nice, les mesures ont été saluées par le maire Christian Estrosi. On est bien loin de la colère suscitée à Marseille lorsque les bars des restaurants ont fermé en septembre. Cette fois donc, le cas par cas semble fonctionner et forcément, dans les territoires où la situation est relativement bonne, certains se prennent à rêver. On l'a entendu, des élus bretons demandent des allègements. Réponse catégorique de l'exécutif ce soir, c'est non. Ce n'est pas le moment de desserrer les taux, confie un conseiller.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1.
Europe 1, 19h08. Aux États-Unis, débaptiser toutes les bases militaires qui portent le nom d'un général confédéré. Eh bien, figurez-vous que c'est l'objectif que se sont fixés l'état-major de l'armée américaine, le président Joe Biden et le Congrès des États-Unis.
Et une commission sénatoriale vient d'ailleurs d'être nommée qui devra rendre donc ses conclusions avant la fin de l'année 2022.
Et forcément, on en parle ce soir sur Europe avec notre spécialiste des affaires internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Ah, c'est quand même une décision politique extrêmement forte. Hein.
Absolument. Mais l'idée, c'est bien de frapper les imaginations en allant titiller les symboles fortement ancrés dans l'imaginaire collectif américain. On parle par exemple de débaptiser Fort Benning en Géorgie, la maison mère de l'infanterie, ou Fort Bragg en Caroline du Nord, creuset des rangers et des parachutistes, hein, qui sont des lieux mythiques de l'US Army. On les a vus des dizaines de fois dans les films, au point d'avoir oublié qui étaient ces généraux qui leur ont donné leur nom. Or, il se trouve que lorsque ces bases militaires géantes ont été fondées, c'était en 1918, pour entraîner cette nouvelle armée américaine qui partait combattre en Europe, eh ben, elles ont été bâties dans le sud des États-Unis parce que le terrain y était moins cher. Malheureusement, on était en pleine période de ségrégation raciale, donc personne ne s'est ému du fait que les élus locaux choisissent de baptiser ces casernes du nom de figures confédérées du cru. Ainsi, le général Benning est originaire de Géorgie, alors certes, officier courageux, mais violemment raciste. Quant au général Bragg, il est bien né en Caroline du Nord, seulement son seul exploit militaire, ça a été de perdre la bataille de Chattanooga, la seconde bataille. Et donc aujourd'hui, l'état-major des armées ne voit pas pourquoi des personnalités aussi controversées devraient toujours être mises à leur honneur et données en exemple aux jeunes recrues qui sont formés dans ces écoles.
Mais alors tout de même, est-ce que ce n'est pas un effet du politiquement correct ?
Eh bien finalement, pas seulement, parce que l'US Army, comme toutes les armées du monde, est très fortement attachée à ces traditions qui sont un véritable ciment. En revanche, elle ne peut pas accepter la lente érosion de ses valeurs. Or, c'est exactement ce que produit la glorification de la Confédération. Parce que comme vient de le rappeler le général Milley, le chef d'état-major des armées, la guerre de sécession, c'était un acte de trahison contre l'unité du pays, son drapeau et sa constitution que tous les officiers américains ont fait serment de défendre. Cette mise au point, avant, pouvait paraître superflue, mais c'était justement avant l'assaut lancé sur le Capitole par les partisans de Donald Trump. Et dans cet assaut, parmi les 140 émeutiers qui ont été interpellés par la police, eh bien, il y avait 20% de vétérans, de militaires et de réservistes. D'où cette réaction extrêmement ferme du haut commandement qui a engagé un plan de lutte sévère contre les idéologies extrémistes au sein des forces armées.
Bien, merci beaucoup Didier François. L'œil de Didier François, spécialiste des questions internationales, c'est tous les soirs dans ce journal de 19h de Christophe Lamarre. On vous dit à demain Christophe.
À demain.
Anissa Haddadi, du beau temps, chouette presque pour tout le monde demain.
Oui, à part sur la pointe bretonne et le Roussillon où là les nuages et le vent marin vont rythmer votre journée et peut-être vous apporter quelques gouttes hein, sur le Finistère et les Cévennes. Eh bien écoutez, sachez que demain, partout ailleurs, il va faire très beau. Après la dissipation des brumes et des brouillards matinaux, le soleil va s'imposer. Et en plus de ça, grâce au soleil, les températures seront en hausse demain avec 2 à 12 degrés le matin. Et dans l'après-midi, nous aurons 13 à 22 degrés au meilleur de la journée. 13 à Quimper et Lorient, 15 degrés pour Brest et Montpellier, 17 à La Rochelle et Montélimar, 19 degrés pour Paris, Lille et Bordeaux et 22 degrés la maximale prévue pour Clermont-Ferrand. Ce sont des températures dignes d'un mois d'avril.
Merci beaucoup Anissa, on vous souhaite une très belle soirée. 19h12 sur Europe 1, dans un instant, la magistrature confrontée à une crise des vocations alors que les contentieux, eux, se multiplient. Mais d'abord, c'est la carte blanche du jour.
Europe Soir, Isabelle Millet.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et ce soir, c'est Anne Rosenchère qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Anne.
Bonsoir Isabelle.
Alors il y a quelques instants, juste avant vous, avec Didier François, on parlait du changement de nom des bases militaires. Et bien ce soir, vous voulez revenir sur un guide pratique qui a été publié ce mois-ci par le ministère de la Culture en France, donc intitulé « Comment décider du nom d'un lieu ». Expliquez-nous.
Ben oui, on le sait peu Isabelle, mais depuis 5 ans, près de 800 communes nouvelles ont vu le jour en France, résultat de la fusion d'environ 2500 villages entre eux. Et à chaque fois, la question se pose, comment appeler la nouvelle entité ainsi créée ? Dans certains cas, cela se passe sans encombre. Et dans d'autres, eh bien, c'est n'importe quoi. Par exemple, prenez la commune de Thaon-les-Vosges, située dans le Grand Est. En 2015, ce bourg de 9000 habitants a fusionné avec les villages voisins moins peuplés de Girmont et Oncourt. Et pour baptiser cette nouvelle entité, les élus locaux ont opté pour Cap-Avenir-Vosges.
qu'à pas venir, vraiment.
Oui, oui, ça a fait un peu de pétard. Ouais. Parce que qui a envie d'habiter à Cap Avenir ? On dirait le nom d'un projet immobilier des années 90 ou le nom d'un centre commercial vantant le clinquant d'une modernité au rabais. Sans compter les blagues sur ta Cap Avenir à Cap Avenir et autres réjouissances dont on peut sourire, mais qui ont passablement irrité les habitants, lesquels ne s'attendaient pas à un nom aussi délirant. Tant et si bien qu'aux dernières élections municipales, le maire s'est fait sortir. Son remplaçant, dans la foulée, a organisé un référendum local, lequel a décidé à 91% de redonner le nom de Thaon-les-Vosges à la commune nouvelle, tout en gardant des mairies déléguées à Girmont et à Encourt.
Bon, tout est bien qui finit bien, finalement.
Oui, entre-temps, cela a coûté un petit peu d'argent en panneaux et autres enseignes. Mais surtout, le cas de ce bourg du Grand Est n'est pas exceptionnel. On pourrait citer le regroupement des villages de la Somme, Yancourt-le-Grand, Pertin et Aumiercourt, assemblés sous le nom d'Hypercourt, ou encore cette entrevigne dans l'Hérault viticole qui constitue certes un effort de représentation imagée, mais qui pourrait convenir à n'importe quel village du coin. Alors, pour tenter d'anticiper ces déconvenues, le ministère de la Culture et la Commission nationale de toponymie viennent donc de publier un guide pratique à l'usage des élus, très fourni et très passionnant, je dois dire, sur la nécessité d'encadrer la créativité dans le baptême de ces nouvelles communes.
C'est incroyable. Si ce n'était pas vous, j'aurais du mal à y croire. Est-ce qu'il y a quand même une morale à toute cette histoire?
Elle est assez complexe, Isabelle. Ne râlons pas juste pour râler. D'abord, il est fort probable que ces regroupements administratifs soient nécessaires et même bienvenus. Ce n'est pas ce qui est en question. Ensuite, je ne crois pas qu'on doive cette fois vitupérer contre les délires d'une administration centralisée qui martyriserait le bon sens local, puisque ces erreurs sont le fait d'élus locaux. Non, je pense que ces histoires disent quelque chose de la désinvolture avec laquelle certains, d'où qu'ils soient, traitent parfois le patrimoine du quotidien. Sans verser dans les excès de l'esprit de clocher, rappelons tout de même que les noms des bleds décrivent en subliminal un certain génie des lieux. Pour les sociétés humaines, ils sont un repère, un héritage à traiter avec attention. En vérité, je crois qu'il faut toujours prendre la géographie au sérieux.
Puis on y tient, nous, à nos noms de village.
Ben oui.
Merci beaucoup. C'était Merci, Isabelle. La carte blanche d'Anne Rosenchère ce soir sur Europe 1.
Europe 1. Isabelle Millet.
Dans un instant, votre club des idées consacré à la crise de vocation dans la magistrature et à ses conséquences concrètes pour la profession, bien sûr, mais aussi pour nous, pour nos démarches au quotidien. À tout de suite. Il est 19h18 et ce soir, dans votre débat du Club des idées d'Europe 1, on parle de la crise des vocations au sein de la magistrature, une crise qui est particulièrement criante dans la justice de proximité, celle qui gère les affaires de violence conjugale, par exemple, de petites délinquances, de conduite en état d'ivresse pour ce qui est du pénal, mais aussi dans le civil, les divorces, les voisins qui se déchirent sur une affaire de clôture ou de coq qui chante trop tôt. Aujourd'hui, les tribunaux judiciaires ont bien du mal à trouver des candidats. Résultat, eh bien, ceux qui sont en poste cumulent souvent plusieurs fonctions. Comment expliquer cette désaffection qui nous impacte tous, nous, les justiciables? On en parle avec mes invités en direct. Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Joëlle Munier, présidente du tribunal judiciaire de Caen et de la Conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires qui est en ligne avec nous. Bonsoir.
Bonsoir, madame Millet.
Arnaud Larez, procureur de Sens. Bonsoir à vous également. Et Olivia Bonsoir. Dufour, journaliste responsable du site Actu Juridique, auteur de Justice, une faillite française, c'est aux éditions LGDJ. Bonsoir.
Bonsoir
à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'accompagner ce soir. On va donc parler de ces magistrats qui travaillent au plus près de la vraie vie, qui sont donc confrontés aux problèmes quotidiens des Français, à leurs préoccupations directes. Ce sont des dossiers, des faits divers ou des affaires qui ne font pas souvent la une des journaux, mais qui constituent une masse de travail considérable. La France compte aujourd'hui environ 8500 magistrats dépendants du ministère de la Justice. Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature, il faut rappeler d'abord que sous cette appellation de magistrat, en fait, il y a une multitude de professions.
Ah oui, effectivement, quand on passe le concours pour devenir magistrat, on se prépare à pouvoir exercer toutes les fonctions, donc du parquet comme du siège, c'est-à-dire les fonctions de procureur de la République, membre du parquet, à savoir ceux qui... mais nous avons un procureur, donc il pourra l'expliquer mieux que moi encore, qui font les enquêtes dans les affaires pénales, qui dirigent les enquêtes et qui prennent les décisions de poursuite. Et puis, des fonctions, toutes les fonctions du siège, les juges civils, les juges qui jugent les délits en correctionnel, les juges d'application des peines, les juges des enfants, juges d'instruction, le juge des libertés de la détention et enfin, juge des contentieux de la protection. Donc, on doit effectivement se préparer à pouvoir exercer l'ensemble des fonctions et acquérir toutes les techniques pour cela.
Et alors, j'ai appris en préparant cette émission que c'est une profession magistrat qui est majoritairement féminine. Hein.
Oui, c'est de plus en plus le cas, effectivement. Dans les promotions les plus récentes, on a en général 70%, 80% de femmes qui sont reçues au concours.
Joëlle Munier, je rappelle que vous êtes présidente du tribunal judiciaire de Caen. Comment est-ce que vous expliquez ça? Parce que les femmes ont besoin de faire un métier qui a un sens, une utilité, une humanité. Pourquoi vous, est-ce que vous avez choisi cette profession?
Ah ben, je crois qu'effectivement, enfin vous l'avez dit, le devenir magistrat, c'est vraiment le choix d'une vie. C'est le choix qu'on fait pour l'attrait intellectuel, pour l'attrait humain de ses fonctions. C'est un métier qui s'ancre vraiment dans la réalité sociale. On a tous les jours une plongée dans la nature humaine, hein. Vous l'avez dit, on est au plus près de la société, des réalités, de l'actualité, des débats de société. Et avoir dans l'idée qu'on puisse avoir cette utilité social manifeste, qu'on puisse participer aussi aux évolutions de la société. Hein. Je vous rappelle tout ce que vous appelez, ce qu'on appelle la jurisprudence, hein, et toutes ces décisions qui vont faire avancer sur tel ou tel point. Le débat de société, c'est quelque chose qui constitue vraiment des choix de vie, et c'est peut-être ce qui peut expliquer aussi que quand on ne s'y retrouve peut-être pas, ou qu'on met des ambitions très hautes dans ses fonctions, dans le service des justiciables, ben parfois on puisse un peu ensuite être frustré de ne pas pouvoir assumer pleinement ses fonctions.
Alors comment ça se passe quand on sort de l'école nationale de magistrature, parce que manifestement les difficultés, elles commence à ce moment-là. Arnaud Lazer, vous êtes procureur de Sens dans l'Yonne. Comment ça s'est passé pour vous, cette sortie de l'école de magistrature?
On plonge directement dans le bain. J'ai été nommé substitut du procureur dans une ville moyenne. Et on apprend le métier encore plus profondément qu'on a eu à l'école. Donc on va à l'audience, on est de permanence une semaine sur quatre. On va sur les scènes de crime. On passe de l'école, de la théorie à la pratique.
Katia Dubreuil, à l'issue de ce concours, on a une affectation qui n'est pas forcément celle dont on rêve, hein, d'ailleurs comme dans tous les concours. Hein.
Oui, bien sûr, quand on sort de l'école, il y a une liste de postes qui est proposée par la chancellerie. D'ailleurs, il y a précisément le nombre de postes actuellement, et c'est une chose pour laquelle on souhaiterait qu'il y ait une évolution, puisqu'il y a le même nombre de postes que le nombre de personnes qui sortent de l'école. Ce qui veut dire que les auditeurs de justice n'arrivent pas à se mettre d'accord pour répartir les postes entre eux et que ça se joue au classement, puisqu'il y a un classement de sortie à la fin de l'école, le dernier de la liste va prendre le poste qui reste, il n'aura aucun choix, et donc il peut se retrouver en Outre-mer, par exemple, alors qu'il habite en France avec sa famille, etc. Donc c'est quelque chose, effectivement, les premières affectations ne sont pas forcément voulues. On doit faire un choix entre la géographie et puis la fonction. Il y a des fonctions qu'on peut avoir envie d'exercer en sortant de l'école, et puis on va forcément finalement choisir une autre fonction par rapport aux critères géographiques.
Aux critères géographiques, parce qu'il y a des tribunaux dans toute la France, on peut aussi tomber dans une grosse comme dans une petite juridiction. Hein.
Oui, il y a effectivement des grandes différences de façon de travailler entre les petites juridictions et les grosses juridictions, et avec chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Donc je ne dirais pas forcément que travailler dans une petite juridiction, ça peut être lourd, parce qu'effectivement on est amené à exercer des fonctions très diversifiées, à être un peu multitâche, et en même temps on a des responsabilités peut-être plus que quand on est au milieu de beaucoup d'autres magistrats, très vite.
On va revenir sur ce côté multitâche qui est très intéressant, mais quand on devient magistrat, on sait qu'on va devoir être donc très mobile, puisque tous les 7 ans, me semble-t-il, Joëlle Munier, tous les 7 ans, au maximum, on doit changer d'affectation. Comment ça se passe?
Alors, cette limite de 7 ans est applicable pour les fonctions de chef de juridiction, hein, donc de président ou de procureur. Ensuite, pour un certain nombre de fonctions particulières, comme les juges d'application des peines, les juges d'instruction, c'est une barre qui est fixée à 10 ans. Et les autres ne sont pas, n'ont pas ces délais imposés. En revanche, si l'on veut progresser, on va dire, dans la carrière, on a une mobilité qui est de fait imposé. Donc c'est vrai
ça doit être terrible, notamment pour la vie de famille. Hein.
Voilà, donc c'est vrai que ça a des incidences nécessairement sur la vie de famille. Aujourd'hui, on voit, c'est pour ça, on voit la sociologie aussi des magistrats changer. On a beaucoup, on a dit que c'était un corps féminisé, certes, mais c'est surtout que actuellement, les deux, souvent, les deux membres
dans un
du
couple,
couple
oui, les deux travaillent.
Voilà, les deux personnes travaillent. Donc, comment arriver à concilier les intérêts de chacun, le switch de progression de carrière de chacun, surtout si l'un est dans le privé, l'autre dans la magistrature, ou bien, enfin, peu importe les métiers. Donc, c'est ça qui certainement constitue à la fois un frein, mais aussi, ça peut être aussi un intérêt de savoir que dans sa carrière, on ne sera pas limité à une fonction, comme l'a dit Madame Dubreuil, on ne sera pas fixé non plus sur un lieu ou un tribunal. On a la possibilité de changer si, justement, au bout de 2 ans, 3 ans, ça ne correspond plus à son attrait, par exemple. C'est aussi un atout. Mais c'est vrai que c'est une entrave importante pour la constitution aussi de liens et d'insertion
et familiaux et de la société. Oui. Alors, on va poursuivre ce débat dans un tout petit instant sur Europe 1. On va revenir sur ces problèmes de mobilité géographique. Hein. Et puis, on va voir aussi qu'au-delà de ces problèmes, le quotidien des magistrats est souvent compliqué. À tout de suite. 19h29, on poursuit notre débat sur Europe 1. On parle de la crise des vocations au sein de la magistrature, de la justice de proximité. Comment expliquer ce désamour pour la profession, pour ces métiers qui sont pourtant au cœur de notre société, qui permettent d'exercer des tâches variées, au plus proche de la vraie vie. On continue d'en parler avec Katia Dubreuil, la présidente du syndicat de la magistrature, Joëlle Munier, présidente du tribunal judiciaire de Caen et de la Conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires, Olivia Dufour, journaliste responsable du site Actu Juridique, qui a écrit un livre sur la faillite française de la justice, et Arnaud Larez, qui est procureur de Sens et qui est en direct également avec nous. Alors, il y a effectivement, on en parlait tout à l'heure, dans le parcours, dans la vie d'un magistrat, ce problème d'affection aléatoire qui doit être, et on le comprend, compliqué à vivre. Vous, Arnaud Larez, comment vivez-vous cette mobilité géographique? Parlez-nous un petit peu de vous. Bon, mais c'est la règle, on la connaît, mais ça ne doit pas être facile à concilier, on le disait, avec une vie sociale.
Tout à fait. Moi, par exemple, sur ma dernière affectation, j'ai décidé de ne pas déménager et donc j'ai une heure de transport aller, une heure de transport retour tous les jours, mais avec des horaires de procureur de la République, c'est-à-dire vous commencez à 8h, vous finissez à 22h. Donc la vie de famille, elle est un peu mise entre parenthèses. Et le week-end, vous êtes de permanence, vous êtes chef de parquet, vous êtes disponible tout le temps, y compris pendant les vacances. Donc c'est un vrai sacrifice.
Et vous, Joëlle Munier, vous travaillez à Caen, donc vous êtes la présidente du tribunal judiciaire de Caen, mais votre famille, elle habite bien loin de chez vous, hein?
Et oui, voilà. Donc là, ce sont des choix, là aussi, comme je disais, des choix de vie. Et effectivement, ma famille habite à plus de 800 km. Et puis,
à Toulouse.
Voilà. Donc on ne peut pas rentrer tous les week-ends chez soi. Donc, a fortiori, tous les soirs. Et comme le disait le collègue procureur de la République, quand on est chef de juridiction, voilà, on a des responsabilités qui font que, mais les autres magistrats aussi assument ces fonctions. On doit être présent, on doit rester sur place. Il ne faut pas oublier qu'un tribunal vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ouvert tout le temps, il y a des permanences tout le temps. Et les magistrats sont à l'œuvre tout le temps. Et ils l'ont été aussi pendant le temps du Covid et du confinement, hein, où on a pu dire que les tribunaux étaient fermés. Certes, ils n'accueillaient pas de public pour limiter les risques sanitaires, mais ils continuaient à travailler et les magistrats étaient à l'œuvre et le sont tous les jours, quotidiennement et la nuit également. Donc c'est vrai que ce sont des contraintes pesantes, mais pour un métier passionnant, hein, comme le vôtre, hein, ce sont des métiers de passion.
Ouais. Olivia Dufour, vous avez enquêté comme journaliste sur cette profession, et le constat que vous dressez dans votre livre « Justice, une faillite française », il est assez terrifiant quand même, hein.
Ben oui, parce que effectivement, alors on le sait que la justice est sous-budgétée en France, on le sait parce qu'il y a des études de la CEPEJ, qui est le Conseil de l'Europe en fait, qui tous les 2 ans comparent les pays du Conseil de l'Europe. Et il se trouve que le montant du budget,
ouais,
par habitant est le plus faible des pays à PIB comparables.
69,50 euros par habitant consacré à la justice en France, quand l'Allemagne investit 131,20 euros. Voilà. L'Espagne, 92 euros. L'Italie, 83. La moyenne européenne, c'est de 84,30. Nous, on est à 69,50. Effectivement, c'est peu.
Exactement. Alors ça se met en perspective avec les travaux d'universitaires qui ont analysé la situation depuis le 19e siècle, et on découvre qu'en réalité la France est sous-budgétée, la justice en France est sous-budgétée depuis le milieu du 19e siècle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait on arrive absolument à l'os, on arrive au bout du bout. Parce que vous imaginez bien que les bâtiments se dégradent, que tout s'abîme. Quand on manque d'argent pendant un siècle et demi, il y a un moment donné où on n'en peut plus. Et la difficulté, parce qu'on entendait tout à l'heure les magistrats, oui, ça fait partie du statut. Je pense que tous l'assument de devoir. C'est dur. Cette mobilité, mais ça, c'est un choix. Ça, ils signent pour ça lorsqu'ils entrent dans la magistrature. Par contre, ils ne signent pas pour le fait de ne pas avoir de papier, pas avoir de crayon. C'est vrai ce que je vous dis. Parce que quand on dit « j'ai pas de moyens », les gens se disent « bon, personne n'a assez de moyens pour faire ce qu'il a envie de faire, même pas vous et moi dans nos métiers ». C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'ils ont vraiment pas de moyens. Ils ont pas de fioul l'hiver dans certains tribunaux. Ils ont des toitures qui leur tombent sur la tête. Ils ont pas de logiciel performant. Ils ont un système informatique antédiluvien. Et ça s'appelle des situations en fait de harcèlement. C'est là que ça ne va plus. C'est pas intrinsèque à la fonction. C'est que le manque de moyens est en train de les épuiser totalement. Et le syndicat que préside Katia Dubreuil a fait l'année dernière un sondage auprès de ses membres. Elle a obtenu déjà de l'ordre de 800 réponses sur un corps de 8500. Ça veut dire 10%, ce qui est énorme comme réponse à un sondage volontaire, spontané. Et elle me corrige si je me trompe, mais dans ma mémoire, c'est 30% de magistrats en France, donc 30% des 8500 magistrats, sont en état de souffrance au travail. Donc, on confie nos destins à des gens qui sont en état de souffrance au travail. Et ils sont en état de souffrance au travail, pourquoi ? Parce qu'on ne fait que leur demander de gérer la pénurie en permanence, de faire des miracles. Le système tient en France, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas, uniquement sur la base du dévouement des magistrats, des greffiers et des personnels de greffe. Des gens qui font des miracles tous les jours. Et ils finissent par s'épuiser. Là, ils sont complètement épuisés.
Arnaud Larrez, vous êtes donc procureur de Sens. Vous validez ce que vient de nous dire Olivia Dufour ?
Alors, je dirais que être chef de juridiction, c'est gérer un petit peu des ressources limitées, hein, comme dans une entreprise.
On a un petit problème de liaison avec vous. Allez-y, apparemment, oui, ça remarche. Oui.
Oui. Être chef de juridiction, c'est gérer un petit peu la pénurie et avoir des moyens limités, gérer ces moyens limités. Mais c'est normal. En même temps, c'est à nous d'optimiser les personnels, d'optimiser le matériel pour que ça fonctionne. Après, c'est vrai que on est arrivé à des situations assez difficiles où on n'avait plus les budgets pour repasser une commande de papier, par exemple, et on doit faire pendant quelques semaines sans le papier. Mais ce sont des situations, peut-être à ne pas trop exagérer, au quotidien, Sens fonctionne bien. C'est surtout, je pense, un manque de personnel, de magistrats. Moi, vous voyez, à Sens, on est trois parquetiers, hein, dont le procureur. Trois parquetiers, ça veut dire être de permanence nuit et jour, une semaine sur trois. Hein. C'est énorme, y compris le week-end. Donc c'est ce rythme un peu effréné qui épuise les magistrats. Si on avait des renforts de magistrats, et c'est pas être excessif que demander un parquetier de plus à Sens, par exemple, pour passer à 4 et pour être de permanence qu'une semaine sur 4. Voilà, si on avait ces renforts-là, je pense qu'on pourrait souffler un peu et bien travailler.
C'est plus des renforts humains dont vous avez besoin. Vous êtes remplacé, par exemple, quand vous partez en vacances, Arnaud Larrez ?
Non. Non, on gère avec l'équipe de trois. Hein, donc quand il y en a un qui est en vacances, c'est sur les deux autres que ça retombe.
Joël Munier, est-ce que vous faites vous aussi ce constat ? À quoi ressemble votre journée type, par exemple ?
La journée type, on pense le matin avoir son planning de telle et telle manière, et puis on s'aperçoit à la fin de la journée qu'on n'a pas pu du tout respecter la totalité de ses tâches. C'est un petit peu ça, le quotidien du chef de juridiction, qui par ailleurs a des activités juridictionnelles. Il tient des audiences, il prend des décisions tous les jours. Ce que je voulais dire quand même sur les éléments budgétaires que vous avez évoqués et qui sont une réalité, c'est qu'il y a eu là dans les derniers temps et sur ce dernier budget des avancées significatives en termes quantitatifs, mais que tout ça s'inscrit sur un passé, comme l'a dit parfaitement votre journaliste, c'est que ça s'inscrit dans un passé et on a un rattrapage énorme à faire. Aujourd'hui, les effectifs de greffe sont particulièrement en tension et l'aspect numérique des choses, enfin tout notre système informatique est aussi en construction, on va dire. Hein. On n'est pas arrivé à la maturité numérique qu'on souhaiterait. Ouais. Donc c'est ce qui conduit à entraver quand même un peu le fonctionnement des juridictions, et avec le fait qu'il faut savoir qu'on est un petit peu des chefs d'entreprise, nous présidents ou procureurs de juridiction, mais que contrairement à des chefs d'entreprise, nous n'avons pas de moyens directs et de leviers directs. Nous ne maîtrisons pas nos effectifs, hein, puisque ce n'est pas nous qui choisissons ni les collègues ni le nombre de collègues. Nous n'avons pas de la main sur le budget, puisqu'il nous est donné, nationalement. Voilà, donc ce sont des éléments qui font que on peut aussi parfois avoir une certaine crise entre guillemets sur ses fonctions, oui, notamment de chef de juridiction.
En tout cas, quand on vous écoute, on comprend un peu mieux que ce ne soit pas forcément très attractif, hein, pour un jeune qui sort d'école. On poursuit ce débat dans un tout petit instant sur Europe 1, tout de suite.
Et maintenant, comme chaque mardi, parlons investissement responsable.
Et je suis avec Fabien Léonard, gérant d'une stratégie contribuant à financer la création d'emplois en France dans une société de gestion. Alors dites-moi, pourquoi est-il important d'investir dans la thématique de l'emploi en France ?
Alors on a fait ce choix parce que nous considérons que l'emploi a un rôle central dans l'économie et que c'est un levier essentiel de développement durable, et également parce que la France est un territoire attractif pour les investissements étrangers. Et nous investissons dans cette thématique à la fois via des actions cotées, qui devraient, selon notre analyse, créer des emplois en France, mais aussi via du non-coté, en finançant des projets solidaires.
Et d'après vous, pourquoi cette stratégie suscite-t-elle un intérêt croissant de la part des épargnants ?
Alors, d'une part, les épargnants sont de plus en plus sensibles aux impacts sociaux de leurs investissements. D'autre part, parce que cette stratégie leur permet de suivre et de comprendre dans quel projet et dans quelle société leur épargne est investie, région par région, grâce à des cartes interactives.
Merci Fabien Léonard, à très bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Pour en savoir plus sur le label ISR, parlez-en avec votre conseiller.
Suite de notre débat sur Europe 1 consacré à la crise de vocation dans la magistrature, avec toujours à mes côtés Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature, Joëlle Munier, présidente du tribunal judiciaire de Caen, Arnaud Larez, procureur de Sens, et la journaliste Olivia Dufour. Alors, on a vu qu'une fois sorti de l'école, le parcours de magistrat est bien souvent un parcours du combattant, ce qui explique sans doute cette désaffection pour la profession qui s'est aggravée ces dernières années. Elle manque de moyens, elle manque de bras, nous disaient nos invités, cette justice. La crise du Covid a engendré des retards considérables, ça crée des tensions forcément, on n'arrive pas à rattraper ces retards, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, Katia Dubreuil, vous êtes présidente du syndicat de la magistrature.
Déjà, je voulais juste peut-être reprendre juste un point par rapport à votre présentation, parce que je ne crois pas qu'il y ait de crise des vocations pour devenir magistrat. Ça reste un métier extraordinaire et je crois que beaucoup de jeunes étudiants ou de personnes qui ont eu une autre vie professionnelle ont envie de l'embrasser. Et d'ailleurs, nous avons dans la magistrature maintenant près de la moitié des magistrats qui ont fait autre chose avant, ce qui est une source de richesse pour la magistrature. Et le nombre de candidats au concours, les concours d'accès à l'École nationale de la magistrature pour les étudiants et puis ceux qui ont eu quelques années professionnelles, n'a pas du tout diminué ces dernières années. Donc on a toujours un nombre de personnes qui souhaitent embrasser cette carrière, on ne peut que l'y encourager.
Il n'empêche qu'à l'arrivée, on manque de bras.
Voilà, le problème, c'est que par contre, que les budgets, par exemple, tout à l'heure, Madame Munier parlait d'une revalorisation revalorisation du budget cette année, mais enfin, ça concerne l'embauche de contractuels, de personnes qui ont des emplois qui vont s'arrêter dans quelques mois, dans quelques années. Et ce ne sont pas des embauches de magistrats ou des embauches de greffiers. Il faut quand même dire un mot particulier pour les greffiers, hein, oui, qui sont absolument nécessaires au fonctionnement de la justice et qui diminuent actuellement à chaque année. Hein. Donc, le nombre de greffiers continue à diminuer, alors qu'on est souvent dans des situations, parfois dans certaines juridictions, on a un nombre de magistrats à peu près correct pour fonctionner, mais on n'a pas les greffiers et on ne peut pas fonctionner sans eux. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Déjà, il faudrait que la justice se dote des outils qui permettraient d'évaluer les besoins dont elle ne dispose pas. Donc, il faut savoir qu'en 2018, la Cour des comptes, dans un rapport, a dit à la chancellerie « Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'outils pour mesurer le nombre de magistrats et de greffiers qu'il vous faudrait pour traiter toutes les affaires qui doivent être traitées par la justice ?» Et que, à ce jour, et c'est un serpent de mer, puisque déjà des années auparavant, hein, les organisations syndicales avaient demandé que ce type d'outil soit élaboré, il n'existe toujours pas. Et on n'avance pas sur cette évaluation, effectivement, des besoins. Et tant qu'on n'avancera pas, on ne pourra pas savoir quel est le budget qu'on doit allouer à la justice pour pouvoir travailler. Et le problème, c'est que non seulement les magistrats s'épuisent, comme ça a pu être dit, mais en plus, il y a quand même une déshumanisation de la justice qui paraît problématique et qui peut être source de souffrance pour les professionnels et surtout aussi de conséquences pour les justiciables. Quand il n'y a pas seulement le nombre de magistrats, de greffiers, il y a aussi le nombre d'escortes, il y a tout le budget qui pose un problème. Quand on n'a plus le nombre d'escortes suffisant, et c'est le cas depuis quelques années, pour amener les détenus au tribunal pour être jugés par exemple, qu'est-ce qu'on demande aux magistrats de faire? On leur demande de faire de la visio, donc de juger des personnes à travers un écran. Ce n'est pas une manière, effectivement, d'avoir un... Enfin, tout ce qui fait le cœur de la justice, la nécessité d'avoir un regard, des gens qui se parlent face à face, des personnes qui peuvent s'expliquer devant leur juge, qui peuvent avoir leur avocat à côté d'eux, tout cela est mis à néant par ce type de solution de pis-aller, finalement, qu'on nous met parce qu'on n'a plus les moyens de fonctionner normalement.
Et ça n'a rien à voir avec la crise du Covid, hein. C'était déjà le cas avant.
C'était déjà le cas avant. Alors évidemment, il y a une accentuation de ce type de solution qui a pu se produire pendant la crise parce qu'il fallait limiter la présence des justiciables dans les juridictions. Mais à la faveur, par exemple, de cette crise, effectivement, on sent que il y a une accentuation, la chancellerie dans la volonté d'imposer toujours plus de visio dans les tribunaux, ce qui ne correspond absolument pas à l'idéal qu'on peut avoir
de la justice. Alors on peut espérer quand même que les choses changent. Le Conseil supérieur de la magistrature doit présenter d'ici quelques jours 25 propositions pour redonner de l'attractivité à cette profession. Joëlle Munier, vous en attendez quoi? Joëlle Munier, peut-être. Arnaud Larez est avec nous, parce qu'on a perdu Joëlle Munier. Arnaud Larez, vous en entendez quoi, vous, de ces propositions du Conseil supérieur de la magistrature?
Alors, je crois que le Conseil supérieur de la magistrature doit surtout se prononcer sur l'attractivité des fonctions de chef de juridiction, ce qui est un métier dans le métier, puisque être magistrat, c'est déjà difficile, mais être chef de juridiction, c'est diriger une équipe, c'est diriger les enquêteurs, et c'est aussi organiser la juridiction, le tribunal au quotidien, l'immobilier, la sécurité, etc. Et donc, on attend les propositions du Conseil supérieur de la magistrature pour améliorer, d'une part, l'équipe autour du chef de juridiction, puisqu'on est assez démunis, hein, comme le disait ma collègue de Caen, chargé de communication,
parce qu'aujourd'hui, vous devez tout faire, hein, c'est-à-dire, par exemple, quand vous devez communiquer avec la presse, c'est vous qui devez vous y coller tout le temps, quoi.
C'est ça, on prépare nos conférences de presse tout seul, nous on va effectivement devoir à la fois inviter les journalistes, préparer notre texte, faire l'interview, répondre aux questions sans aucune assistance. Dans les petites juridictions, bien entendu, dans les juridictions un peu plus de taille plus importante, il y a ce chargé de communication. Mais à Sens, il n'y a pas tout ça. Et si vous voulez bien faire votre travail, vous avez besoin d'une équipe et on attend... J'espère que le Conseil supérieur de la magistrature préconise des standards sur cette équipe autour du chef de juridiction et puis aussi accompagner le chef de juridiction lorsqu'il arrive dans une nouvelle juridiction. Parce que quand on arrive, en fait, quand on est président ou procureur, on doit tout faire, trouver un logement, trouver une nouvelle école pour ses enfants, mais en même temps prendre tout de suite contact avec ses collègues, organiser la juridiction, alors même que peut-être il n'y avait plus de procureur ou de président depuis 6 mois.
D'accord. On a vu avec Katia Dubreuil à quel point vous étiez à flux tendu, hein, avec pas assez de greffiers, notamment. On fait comment je voudrais essayer de comprendre pour le justiciable, pour les auditeurs qui nous écoutent, quelles sont les conséquences, Katia Dubreuil ?
Les conséquences, c'est que vous pouvez prendre moins de temps déjà pour examiner chaque dossier. Alors, soit. Enfin, le dilemme qui est celui du magistrat, et ça ressortait d'ailleurs de l'étude qu'on avait faite, enfin, le sondage qu'évoquait Madame Dufour tout à l'heure, c'est la qualité d'un côté de ses décisions, le temps qu'il va prendre à lire la jurisprudence, à lire, à se mettre à jour par rapport aux nouveaux textes, à faire des recherches, etc. Et le flux de dossiers qu'il faut traiter. Et les problèmes de stock de la justice, hein, ça ne date pas du Covid de l'année dernière. Hein, les problèmes de stock et de délai de la justice, ça date, c'est récurrent depuis de nombreuses années. Et tant qu'on n'aura pas les moyens, ça veut dire que le justiciable va attendre sa décision longtemps. Vous avez dans certaines juridictions un justiciable qui souhaite divorcer, un justiciable qui souhaite avoir une décision sur la garde de son enfant, un justiciable qui a besoin d'avoir une réponse pour ses indemnités de licenciement, etc., qui va attendre des mois, voire parfois et même souvent des années avant d'avoir la décision. Donc quel sens a la décision de justice quand elle arrive si tard ? Et puis même pour arriver à ce résultat qui est déjà pas du tout satisfaisant, les magistrats auront, dans certains cas, pas pu passer le temps qu'ils auraient voulu passer sur les procédures. Ou alors ils le font et ils s'épuisent en travaillant la nuit, le week-end, pendant leur congé, etc., etc. Ce qu'on a pu voir aussi dans notre sondage.
Et c'est
ce qui
votre
aboutit
cas...
parfois à des situations réellement de détresse, hein, des magistrats.
Est-ce que c'est votre cas, Joël Munier, quand vous entendez ce que nous dit Katia Dubreuil ? Vous aussi, vous regrettez de ne pas pouvoir passer assez de temps pour vraiment bien suivre un dossier comme il faudrait ?
Je pense que c'est ce que je disais au départ, c'est général, c'est l'idée qu'on se fait, la très haute idée que l'on se fait à la fois de la justice et du service que l'on rend aux justiciables, de cette utilité sociale, nous conduit évidemment à vouloir la meilleure qualité et de pouvoir être attentif, être à l'écoute des justiciables, ce qui prend effectivement du temps. L'idée aussi que nous souhaitons, nous prenons des décisions qui sont extrêmement lourdes de conséquences en quelque matière que ce soit pour les justiciables. Il nous faudrait pouvoir donc multiplier ce qu'on appelle la collégialité, c'est-à-dire ne pas être seul pour prendre ces décisions, être à trois en général. Or, le manque effectif d'effectifs, le manque de greffe aussi, fait que nous avons tendance à prendre plutôt des audiences en juge unique et en collégial et à réduire donc ces temps. Donc tout notre travail aujourd'hui est axé sur la définition finalement de cette ligne de crête et de ce partage entre écouter, entendre, être à l'attention des justiciables et puis quand même répondre dans un délai raisonnable à leur demande et à leur situation. C'est vrai.
Merci
que ça prend beaucoup de tension.
L'imagine. Merci beaucoup en tout cas à toutes et tous pour ce débat très riche. On vous souhaite beaucoup de courage parce qu'on a besoin de vous. On vous a pas applaudi pendant la crise du Covid, mais on sait que vous êtes important aussi pour l'équilibre de notre société. Merci.
Europe 1, Isabelle Millet.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. On va vous raconter le jour où Ingrid Betancourt a été enlevée par les FARC en Colombie. À tout de suite. On est toujours ensemble sur Europe 1 et dans le Club des idées. On va maintenant plonger, comme chaque soir, dans les archives d'Europe 1. 3 minutes pour comprendre, pour éclairer l'actualité. Ça s'appelle le jour où.
Un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Jean-Sébastien Soldaini.
Bonsoir.
Ce soir, vous revenez sur ce 23 février 2002, jour de l'enlèvement d'Ingrid Betancourt en Colombie par les FARC.
Et c'est le début de 6 ans d'imbroglio et d'angoisse au cœur de la jungle. 6 ans à chercher et attendre des images de la sénatrice franco-colombienne, car s'il y a bien eu une preuve de vie au bout d'un an de captivité, rien ne sort de cette forêt dense où elle est détenue jusqu'en 2007. Une image quasi mystique surgit alors. Ingrid Betancourt comme un fantôme, amaigrie, affaiblie, vêtue de blanc, sa longue mèche de cheveux qui pend et un chapelet en main qu'elle s'est elle-même fabriqué. Cette image change la donne. Les messages sobres de ses proches, optimistes, deviennent des coups de pression aux autorités et son ex-mari Fabrice Deloye dit sa colère au micro de Marc Messier.
On ne peut pas la laisser comme ça. On ne va pas être spectateur de la mort lente d'Ingrid encore pour des années. Il faut absolument la sortir de là et il faut absolument convaincre le président Uribe qu'un accord humanitaire, c'est quand même pas la fin du monde. Il faut vite, très vite agir. Parce que si on n'agit pas vite, eh bien, Ingrid Betancourt ne sera plus vivante et les otages qui sont avec elle ne seront plus vivants.
Car jusque-là, les comités de soutien affichent son visage sur l'hôtel de ville de Paris. Le chanteur Renaud écrit une chanson spécialement pour elle. Et Ingrid Betancourt est dépeinte comme la championne de la lutte anticorruption en Colombie. Avec cette vidéo, sans aucun son, elle passe d'héroïne de la lutte anticorruption à martyr.
Et puis il y a aussi un ras-le-bol de la part de sa famille de voir que trop de choses ont été tentées pour la libérer sans succès.
En fait, trop de monde négocie. En plus du président colombien Uribe, le brésilien Lula, le vénézuélien Chavez, le français Chirac sont de la partie. Paris tente même l'opération 14 juillet avec les forces spéciales sans l'accord des autres pays. Mission avortée en Amazonie, mais avec cette nouvelle vidéo, Nicolas Sarkozy enregistre un message destiné aux médias colombiens et espère être entendu par les otages.
Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy, le président de la République française. Je m'adresse à vous qui êtes retenu en otage. Je refuse l'idée de vous laisser en perdition. Ceux qui vous détiennent font une erreur tragique. À tous, je veux le dire, la France ne vous oubliera pas. Ingrid, nous ne vous laisserons jamais tomber.
Alors la France négocie avec les FARC, mais c'est finalement une opération de l'armée colombienne qui va libérer Ingrid Betancourt.
La Colombie joue double jeu, se sert de la France pour approcher et capturer des FARC. C'est même en se faisant passer pour des humanitaires de la Croix-Rouge qu'il récupère la sénatrice franco-colombienne le 2 juillet 2007. Deux jours plus tard, dans un avion qui fait route vers Paris, Ingrid Betancourt se confie à Didier François.
Lorsque j'étais en captivité, je me suis passionnée de tout ce qui pouvait avoir quelque chose de similaire à ce que j'avais vécu. J'ai suivi l'affaire de Florence Obena avec passion. Et je souffre physiquement de savoir que Aung San Suu Kyi continue à être dans les mains qu'elle est séquestrée chez elle.
Ce sont quand même d'autres otages qui ont retenu son attention, mais Ingrid Betancourt semble parfaitement au courant de la marche du monde durant toutes ces années de captivité. C'est grâce à une petite radio qu'elle avait sur elle qu'elle a suivi l'actualité, qu'elle entendait tous les messages de soutien diffusés sur les ondes.
C'était Le Jourou avec Jean-Sébastien Soleini.
Europe 1. Isabelle Millet.
Dans un instant, le rappel de l'actualité avec Julien Pierce et puis musique avec vous, Émilie Mazoyer. Bonsoir, Émilie.
Bonsoir, Isabelle.
Alors, que nous avez-vous concocté ?
Alors, ce soir, je suis super fière et un peu fébrile d'accueillir Claude Gassian, immense photographe rock. 5 décennies de portraits incroyables de Bowie à Prince à Patti Smith à James Brown et aux Rolling Stones. Il les a tous photographiés. Il est le commissaire d'une vente aux enchères qui aura lieu du 4 au 11 mars chez Sotheby's. Il vient nous en parler et puis voilà, on va parler de ces géants du rock à qui il a tiré le portrait.
Vous avez fait une petite retouche de maquillage, j'espère, au cas où.
Au cas où, on sait jamais, vous avez raison, une petite séance de pause.
Belle émission à vous,
merci
Émilie.
Beaucoup Isabelle.
Très belle soirée à vous tous, je vous retrouve demain dès 18h et d'ici là, on écoute Le Monde Changer, bien sûr.